Cette année, nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Et on dit souvent que l'évangile de Luc, c'est l'évangile de la prière. On nous a rappelé au début de cette célébration que la semaine dernière, on nous parlait de la prière de persévérance. Et aujourd'hui, on va nous parler de l'attitude que nous devons avoir lorsque nous prions. Comment nous tenir devant Dieu lorsque nous désirons prier. Et Jésus va nous raconter une histoire, une parabole. Il va prendre le publicain, un publicain et un pharisien. Une petite remarque préliminaire. Tous les pharisiens et tous les publicains n'agissaient pas de la sorte à l'époque de Jésus. C'est une histoire, c'est une parabole. Et finalement, Jésus force ici les traits pour décrire deux attitudes antinomiques, celle du publicain et celle du pharisien. Et pour nous inviter, nous, à réfléchir sur notre propre attitude lorsque nous désirons prier. Alors regardons-les tour à tour, ces deux personnages. Les publicains, à l'époque, ils étaient mal vus. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, ils collaboraient avec les Romains, notamment en ce qui concerne les impôts. Et vous savez peut-être que le pouvoir romain à l'époque fixait une somme que les publicains devaient payer d'avance. Et ensuite, ils se débrouillaient par eux-mêmes pour se rembourser. Et vous sentez bien qu'ils pouvaient très bien s'en mettre plein les poches et se rembourser au-delà de ce qu'ils avaient demandé aux gens à qui ils demandaient l'impôt. Dimanche prochain, nous verrons Jésus rencontrer Zachée, le publicain, et vous savez que quand Zachée va rencontrer aussi Jésus, il dira « Finalement, je vais rendre quatre fois plus par rapport à ce que j'ai pris aux gens. » Donc on sentait bien que les publicains, à l'époque de Jésus, étaient mal vus et ils avaient mauvaise réputation. D'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, on les a toujours considérés ainsi. Saint Jean Chrysostome les qualifiait de cette manière. « Quoi de pire ?» qu'un publicain, je vous le demande, dans les malheurs des autres, il recherche son gain, il profite du labeur d'autrui, il ne tient pas compte des embarras du prochain, mais il accumule ses bénéfices. Voilà pourquoi le péché du publicain est très grave. D'un côté, donc, on a le publicain qui a mauvaise réputation, qui est mal vu par la population. Et de l'autre côté, le pharisien. Pharisien, ça signifie séparé. C'est celui qui voulait vivre selon la loi de Dieu et qui, justement, se séparait du monde païen pour suivre avec fidélité la loi du Seigneur. Un pharisien, célèbre, était saint Paul lui-même, qui se définit ainsi dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3. Il dit ceci: j'ai été circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Les pharisiens, à l'époque du Christ, se considéraient comme de fervents défenseurs de la loi, ils suivaient la loi avec scrupule et ils se considéraient comme parfaits, comme irréprochables. Alors, ils allaient à la synagogue, ils priaient, nous le savons. Donc, on aurait tendance à croire qu'à l'époque du Christ, il valait mieux être pharisien que publicain. Et pourtant, Jésus va renverser totalement la perspective. Puisque à la fin de son histoire, il va dire que celui qui a été justifié, c'était le publicain et non le pharisien. C'est pas celui qui allait toutes les semaines à la synagogue et qui faisait bien ses prières, mais c'était l'autre qui se reconnaissait pécheur dans une attitude de dépendance vis-à-vis de son Créateur. Et qu'est-ce qui a tout changé? Ce qui va changer, c'est leur manière de prier. Jésus ne condamne pas tout ce que faisait le pharisien. Il jeûnait, il payait la dîme, et c'est bien, il le faisait pour Dieu. Il en faisait même plus qu'il n'était demandé par la loi. Ce n'est pas ça qu'il condamne. Qu'est-ce qu'il condamne? Deux attitudes sont reprochées aux pharisiens. La première, c'est qu'il se met au centre. Au lieu de se centrer sur Dieu, il se met au centre. Je reprends avec vous la prière du pharisien. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ou encore comme ce publicain, je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. Cinq fois dans sa prière, il va dire « je ». Il se met au centre de sa prière. Et justement, il montre aussi un petit peu tous les mérites, tout ce qu'il fait pour Dieu. Au lieu de se décentrer de lui-même et de se tourner vers Dieu, car c'est cela la prière, c'est se décentrer de soi et de se tourner vers Dieu pour le glorifier et pas nous glorifier nous-mêmes, il fait l'inverse. Il se glorifie. Vous savez, c'est le risque, et le pape François le dénonce souvent, du pélagianisme. Nous croyons que par nous-mêmes, nous pouvons faire notre salut et que Dieu va nous récompenser en fonction des œuvres que nous aurons faites. Le cardinal Raino Cantala Messa, qui est le prédicateur de la maison pontificale, commentait ce passage en disant ceci. Bon nombre des soi-disant nouvelles formes de religiosité, aujourd'hui en vogue, conçoivent le salut comme une conquête personnelle. Une conquête personnelle due à des techniques de méditation, des habitudes alimentaires ou à des connaissances philosophiques particulières. Et je pense qu'il pensait au yoga, à la méditation transcendantale, peut-être aussi à des formes de société secrètes comme la franc-maçonnerie, où on pense que nous pouvons faire le salut par nous-mêmes. Et il continuait ainsi. La foi chrétienne conçoit le salut différemment. Elle conçoit le salut comme un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, qui exige certainement des efforts personnels et l'observance des commandements, mais plus encore comme une réponse à la grâce que comme une cause de la grâce. Le salut que nous voulons accueillir, eh bien c'est une réponse à la grâce qui nous précède, et ce n'est pas nous qui faisons notre salut. Or, pour prier, pour entrer en relation avec le tout autre, avec Dieu, il faut se décentrer de nous-mêmes. Il ne faut pas se mettre au centre, il faut entrer dans une logique du don, dans une logique de dépossession. Jésus lui-même, c'est ce qu'il a vécu, notamment au Jardin des Oliviers. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et vous savez qu'au Jardin des Oliviers, Jésus a vécu son agonie. Agonie en grec, ça signifie combat. Et se déposséder de soi, se décentrer de soi, c'est aussi un combat, car depuis le péché originel, nous avons tendance à nous centrer sur nous-mêmes, à penser d'abord à nous. Eh bien, tout le combat de notre vie, c'est de nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur Dieu et sur les autres. Ainsi, nous pourrons prier et nous pourrons entrer dans une juste relation avec le Seigneur. C'est la première attitude qui est dénoncée chez ce pharisien. Il se met au centre. La deuxième attitude qui est dénoncée chez ce pharisien, c'est sa suffisance et sa vanité. Il est rempli de lui-même. On nous le dit, le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. On a l'impression, voilà, qu'il est rempli de lui-même et qu'il n'y a aucun espace en lui pour un manque. Il n'y a de sa part aucune attente, puisque finalement tous ses efforts le comblent déjà. Il se suffit à lui-même. Mais nous savons que pour entrer dans une vraie prière, dans une vraie relation, eh bien il faut reconnaître une insuffisance en nous. Comment pouvons-nous entrer dans une relation avec quelqu'un et avec Dieu, a fortiori, si nous pensons que nous n'avons pas besoin de lui, que nous avons tout ce qu'il nous faut? Donc cette suffisance et cette vanité, eh bien, j'allais dire, annihilent les bonnes actions de ce pharisien. Pensons à des grands saints comme Sainte Catherine de Sienne, par exemple, qui disait, en faisant parler Dieu, elle était dans, vous avez peut-être lu déjà ses dialogues, eh bien, Dieu disait, « Je suis celui qui suis, et toi, tu es celle qui n'est rien, qui n'est pas, qui a besoin de moi. » Oui, nous avons besoin de Dieu. Et il ne faut pas être dans cette attitude de suffisance lorsque nous voulons prier. lorsque nous voulons rentrer en relation avec le Seigneur. Finalement, le pharisien, il avait oublié plusieurs choses. Il avait oublié peut-être cette phrase de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier ? Tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout vient de toi, ô Père très bon. » C'était un cantique que nous prenions il y a quelques années. « Et ce que nous avons reçu de toi, nous te l'offrons. » C'est ce que nous allons faire dans quelques instants au moment de l'offertoire. Nous allons présenter le pain et le vin. Nous avons reçu de ta bonté, Seigneur, ce pain que nous te présentons. Nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Et peut-être que ce pharisien, justement, était entré dans ce grand péché qui est dénoncé dans les psaumes. Dans le psaume 19, on voit le psalmiste qui dit « Préserve ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise, alors je serai pur d'un grand péché. » Le grand péché, c'est le péché d'orgueil. Le grand péché, c'est cet orgueil qui me fait me mettre au centre de tout et qui me fait dire « Je n'ai pas besoin des autres, je n'ai pas besoin de Dieu. » En revanche, le publicain, lui, a reconnu son péché. Et finalement, ce que dénonçait chez lui le pharisien était sans doute vrai. Peut-être qu'il était effectivement voleur. Peut-être qu'effectivement, il s'en mettait plein les poches. En ce sens, le pharisien disait juste. Simplement, il le jugeait. Donc, le publicain lui a reconnu ses erreurs, son péché, sa fragilité. Et alors, que faisait-il? Quelle était son attitude? On nous disait, il se tenait à distance. Il n'osait même pas lever son regard vers le ciel. Comme saint Pierre, lorsqu'il a vu Jésus sur le lac, quand il y a eu ce miracle, voilà, de la pêche miraculeuse, il a reconnu le Christ et il a dit à Jésus, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Il est difficile de s'approcher de Dieu lorsque nous sommes pécheurs, lorsque nous reconnaissons notre péché. Nous tenons souvent à distance avec beaucoup de respect. Mais c'est Dieu qui veut nous attirer à lui pour que finalement notre misère fonde auprès de sa miséricorde qui peut tout pardonner. Voilà. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que ce publicain, eh bien, il prie avec le langage des psaumes, avec le langage même de Dieu. Il ne dit pas « je ». Il reprend les paroles des psaumes. « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Cela nous rappelle des psaumes célèbres. « Pitié pour moi, Seigneur, dans ton amour selon ta grande miséricorde, efface mon péché, le psaume 50. Ou alors, pitié pour moi, Seigneur, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Lorsque nous nous sentons pauvres et petits devant Dieu, n'hésitons pas à utiliser le langage même de Dieu pour nous adresser à lui. Prions les psaumes, méditons-les. Vous savez d'ailleurs que dans les 73 livres de la Bible, c'est le seul livre de prière. Eh bien, ouvrons souvent les psaumes, méditons-les, nous pouvons le faire d'ailleurs le matin avec les laudes, le soir avec les vêpres, en nous unissant aussi à la grande prière de l'Église. Donc vous voyez finalement comment, eh bien, il y a eu un renversement de situation. Au départ, on pensait que c'était le pharisien qui agissait bien, le publicain qui était de mauvaise vie, et finalement, eh bien, Jésus va nous dire que c'est le publicain qui va rentrer chez lui justifié. Alors pour finir, je voudrais souligner avec vous quelques traits d'une prière vraie et sincère, d'une prière chrétienne qui soit réellement une prière. La première chose, c'est qu'il nous faut vraiment prier avec humilité, pas pour être vu, priant, mais parce qu'on a besoin de prier. Car la prière est essentielle à notre vie spirituelle. Jésus nous le dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Eh bien, soyons humbles quand nous allons à la prière. Et demandons à l'Esprit-Saint de venir en notre cœur pour prier en nous, car nous ne savons pas prier comme il faut. Deuxièmement, la prière, c'est pour glorifier Dieu, non pour se glorifier. Et il faut justement nous tourner vers lui et le louer, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est. Demandons la grâce aussi de la prière de louange. Développons dans nos journées cette prière de louange pour reconnaître que Dieu est Dieu et que tout ce que nous avons vient de lui. Troisièmement, quand nous parlons des autres dans la prière, parlons pour les présenter au Seigneur, pour présenter leurs demandes, pour intercéder pour eux, comme l'a fait Moïse la semaine dernière dans la première lecture du livre de l'Exode. Mais pas pour nous comparer, pas pour dire que ce qu'ils font n'est pas bien, mais prions pour eux et présentons aussi toutes leurs demandes au Seigneur. Et enfin, une dernière attitude fondamentale dans la prière, c'est de nous laisser faire. Car c'est Dieu qui nous justifie, c'est lui qui nous rend saints. Ce n'est pas l'observance de la loi qui va nous sauver, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Demandons la grâce de nous laisser toucher par le Seigneur, c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous rend saints. Oui, nous le savons, nous sommes tour à tour des pharisiens, des publicains. C'est une parabole. Et donc Jésus veut nous montrer que ces deux attitudes, eh bien, nous les vivons sans doute, chacun. Demandons la grâce de l'art de la prière. Saint Jean-Paul II disait dans sa lettre au début du troisième millénaire qu'il fallait véritablement demander au début de ce millénaire l'art de la prière, car c'est par l'art de la prière que se distingue le christianisme et celui qui a véritablement rencontré le Seigneur. Oui, Seigneur, la semaine dernière, tu nous invitais à persévérer dans la prière. Aujourd'hui, tu nous invites à être pauvres, à nous décentrer de nous-mêmes, à ne pas être suffisants devant Dieu. Donne-nous ta grâce, car la prière est d'abord une grâce, un don de Dieu. Viens remplir chacune de nos existences pour que nous rentrions toujours davantage dans cette relation avec toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen.